Chapitre 4. Tartare des deux sexes. Il y a de par le monde une opinion courante, si courante qu'on en a fait un axiome. L'excès du mal est l'aurore du bien. Si, arrivés à leur point de furie extrême, les orages ne diminuaient point, toute une contrée serait réduite en atomes. Si l'on veut supposer un orage d'un bout de la terre à l'autre, le globe entier serait détruit, il n'en resterait que des fragments épars, témoignages errants de ces merveilles au travers de l'espace. Leurs molécules chercheraient aveuglément à se rejoindre, comme pourraient le faire les membres d'une famille privés d'oreilles et d'yeux. S'il n'arrivait pas un moment où les appétits violents s'arrêtent, quand deux ou trois grandes nations sont en train de se détruire, il y a longtemps que nous aurions vu disparaître le dernier germe de vie dans la tombe du dernier humain, et le monde serait retombé dans le chaos. La grande difficulté pour accepter cette consolante assurance que les choses iront mieux, parce qu'elles vont plus mal, se trouve dans l'ignorance absolue où nous sommes, du moment où l'excès du mal est arrivé. Reste ensuite la question de savoir si la personne soumise à cet excès de maux n'en mourra pas avant l'aurore du bien. Et il est bien possible que Rosa et Mademoiselle Twinkleton se fussent adressées déjà cette question au milieu des souffrances qu'elles enduraient, l'une en personne, l'autre par procuration, grâce à la violence de la Billie King. Le terme de la location de l'appartement garni de Bloomsbury devait expirer sous peu. Mademoiselle Twinkleton allait être obligée de reprendre ses chastes et convenables occupations à la maison des nonnes à la fin des vacances, mais jusque-là. Car on ne peut déguiser les choses. Madame Billie King faisait rage et la limite de l'excès du mal semblait arriver. La guerre avait continué à empirer avec une rapidité dépassant toutes les progressions géométriques, si bien que déclarer simplement le logement intenable eût été une manière trop douce d'exprimer l'état du conflit. L'espoir d'une prompte délivrance et le désir de ne pas causer de peine à l'inconscient M. Grégieuse, en lui ouvrant les yeux sur la propriétaire de son choix, faisaient seuls supporter ce supplice aux deux dames. Non pas que la Billie King ressentît une répulsion personnelle pour le cher bouton de rose, la charmante enfant appartenait à cette classe de petites personnes qui ne choquent point trop les gens maussades et raides. Sans doute, ils reconnaissent que ces petites personnes manquent des qualités de la lutte et qu'elles éviteront par là les collisions. Mais les hostilités entre les deux véritables adversaires, c'est-à-dire la dédaigneuse Twinkleton et la bouillante Billie King, augmentaient de violence et chacun sait qu'un témoin n'évite pas toujours les coups dirigés contre l'ami qui l'accompagne. Il est inutile de dire que des deux adversaires, Mademoiselle Twinkleton était celle qui souffrait le plus, car c'était la moins vulgaire des deux et, partant, la plus sensible. À forces égales, d'ailleurs, l'agresseur reçoit moins de coups que son adversaire, le marteau a moins d'entailles que l'enclume. Si les œufs, demandés pour être mangés à la coque et qu'on espérait manger cuits ou à peu près, arrivaient sur la table sans avoir été même approchés du foyer, si bien qu'ils semblaient avoir été chauffés seulement par la poule sous laquelle on les avait pris, certainement la jeune Rosa pouvait être regardée comme une victime. Si la côtelette, demandée bien cuite, arrivait des régions inférieures transformées en charbon, comme après un séjour de quelques semaines dans la cheminée, l'estomac de la pauvre enfant ne devait-il pas éprouver une répulsion aussi violente que celui de Mademoiselle Twinkleton? Et de même pour la suie dans le pudding et la pâte massive de la tarte dont les fruits semblaient s'être absentés sans permission, et les variations du café le matin. Or, le café était le péché mignon de Rosa, permis à Bloomsbury par Mademoiselle Twinkleton, qu'il aurait défendu à la maison des nonnes. Mais à Bloomsbury, on laissait les grains flotter sur le liquide afin de prouver que c'était bien du café, et le thé toujours si faible. On voyait bien qu'il venait de loin et qu'il s'était évaporé sur le chemin de la Chine. Tout ceci et mille autres détails atteignaient cruellement la petite demoiselle vêtue de deuil. Sa robe noire semblait toujours une matinée d'hiver enveloppant un joyeux paysage printanier. Mais elle souffrait très sérieusement et sa souffrance n'était point un soulagement aux maux de la Twinkleton, son aînée. Les deux dames de Cloisterham auraient bien voulu savoir si les autres locataires de Madame Billikin enduraient les mêmes tortures, mais il n'y avait point pour le moment d'autres locataires. Il semblait peu probable que personne n'eût pu habiter longtemps ce toit, sur l'imperméabilité duquel le caquet de la Billikin exprimait de tels doutes sans fouler aux pieds la faiblesse de cette dame et exciter l'antagonisme de ses nerfs. Il fallait, pour supporter avec plus de patience les traitements singuliers de la Billikin, penser que son intention secrète était de rendre service à Rosa en la soumettant à un régime alimentaire modéré, tandis qu'elle remettait aux lèvres de Mademoiselle Twinkleton ce calice où elle avait bu assez souvent elle-même pour arriver à réduire son propre sang à la pauvreté. Un sang pauvre convient dans un pensionnat. Mais il y avait à l'horizon de la maison Billikin des nuages encore plus sombres. La maîtresse d'océan pouvait bien faire éprouver pendant longtemps 1000 ennuis à ses locataires sans motif bien défini, mais un moment devait arriver où des actes d'une nature aussi déterminée allaient se produire. Des plaintes mieux accentuées furent les avant-coureurs de l'orage, puis vinrent les protocoles et les ultimatums, et la guerre à sa dernière période d'exaspération. C'était par une de ces matinées brûlantes où P.J.T., s'il en avait supporté une semblable à 1747, aurait essuyé les perles jaillissant de ses tempes et déclaré qu'il faisait positivement une jolie température. Mademoiselle Twinkleton et Rosa étaient assises à coudre après déjeuner et causaient sur le projet d'une promenade au parc quand elles s'aperçurent de la présence du tyran journalier. La Billikin ne suivait pas le principe des Arabes de plier silencieusement sa tente et de s'en aller, bien au contraire, ses entrées et ses sorties étaient presque toujours bruyantes. Par sa manière de pénétrer dans une chambre, la Billikin montrait bien que, suivant elle, les portes n'étaient poussées tout juste que pour garantir de l'air et que toutes les chambres d'un hôtel garni étant un territoire neutre, l'accès devait en être permis à tous ceux qui avaient envie d'entrer. La Billikin paraissait pâle et exténuée, comme si elle se fût précipitée dans l'appartement dans l'intervalle de deux évanouissements. Son indispensable châle, d'une étoffe légère à cause de la saison, tombait de ses épaules et découvrait quelque chose qui aurait mieux fait de rester caché. Mais c'était la statue vivante de la candeur. Elle était peut-être encore un peu plus raide que dans les précédentes visites, sans doute à cause de l'influence persistante de son dernier évanouissement, mais l'esprit le moins observateur ne pouvait pourtant mettre en doute qu'elle ne fût, malgré sa faiblesse, absolument capable de formuler une proposition. « Mademoiselle, dit-elle avec un effort visible, toujours la suite de ses souffrances, les affaires sont les affaires et l'on n'a pas toujours le privilège de choisir son temps pour les traiter. Du moins, moi, je ne le puis pas. Je choisirais autrement mon temps et ma société si cela était en mon pouvoir. » Elle s'arrêta pour reprendre haleine, ce qui permit à Rosa de dire « Je vous demande bien pardon, est-ce à propos du dîner? N'est-il pas trop tôt ?»« Non, mademoiselle, » répliqua la Billikin en fixant un moment les yeux sur mademoiselle Tinkleton, comme si elle apercevait à l'horizon un objet d'un aspect vague et indéfini, puis les ramenant sur Rosa. « Non, mademoiselle, ce n'est pas à propos du dîner, c'est à propos des domestiques. » « Des domestiques? Qu'est-il donc arrivé ?»« Mademoiselle, les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Non, vous ne le ferez pas, vous aurez beau essayer. » « Rosa, ma chérie, » dit mademoiselle Twinkleton, qui montra le peu de cas qu'elle faisait de toute l'affaire en enfilant une aiguille avec le plus grand soin et avec une nonchalance marquée. La maîtresse de la maison est ce que j'appellerais un peu ambiguë si je la croyais capable de comprendre ce mot. Voulez-vous être assez bonne pour lui demander, dans des termes appropriés à ses habitudes, ce qu'elle peut vouloir dire, afin que cette visite inattendue soit aussi courte que possible ? Cette botte aurait pu être sérieuse si elle avait frappé l'ennemi. Mademoiselle Twinkleton, pour des raisons que le lecteur comprendra bientôt, était plus que jamais disposée à en finir avec son bourreau et masquait bien moins son artillerie qu'à l'ordinaire. Mais la Billikin était de force à lutter. Elle n'entendit pas une seule des ironies insultantes de son ennemi. On doit le présumer au moins, puisqu'elle n'y fit aucune allusion dans sa réponse. « Non, mademoiselle, ce ne sont pas les dîners, » dit-elle sévèrement et avec une supériorité tranquille, car elle voulait prouver qu'on n'arriverait pas à lui faire perdre son sang-froid. « Ce ne sont pas les dîners, ce sont les domestiques. Mademoiselle, il est impossible de conserver le respect des domestiques si des gens qui sont assez vieux pour savoir ce qu'ils font, sans parler de la position qu'ils ont longtemps occupée et qui les met à même de connaître les gens de service, vu qu'ils ne sont pas placés beaucoup au-dessus d'eux, si de tels gens que nous ne nommerons pas, mademoiselle, parce que ce serait perdre son temps et exercer encore ma patience, si de tels gens, je vous le dis encore une fois, violent toutes les lois établies dans des maisons respectables, en parlant aux domestiques des choses qui ne les regardent pas plus que... Non, mademoiselle, je ne vous le dissimulerai pas quand vous devriez me tuer après, qu'ils ne connaissent pas plus que l'enfant encore à naître. » Rosa, qui se trouvait encore une fois transformée en volant de raquette et qui était lasse de cet exercice, aurait assez volontiers tué Madame Billikin. Elle leva les yeux d'un air un peu surpris et, de fait, elle ne comprenait pas quel tort son institutrice infortunée avait pu faire au domestique. Tandis qu'elle cherchait les mots de sa réponse, Mademoiselle Twinkleton, qui n'était nullement vaincue, bien qu'aussi un peu surprise, lui coupa la parole et lui épargna la peine de répondre. « Rosa, ma chère, dit cette digne demoiselle, je vous serai réellement très obligée de vouloir bien mettre en demeure la maîtresse de la maison, je dirais même l'étonnante maîtresse de la maison, qui semble acquérir chaque jour des manières plus désagréables, suite naturelle d'un sang très vulgaire, je vous serai obligée de la mettre en demeure, de déclarer ce qu'elle désire et pourquoi elle se permet d'entrer chez les gens sans qu'on l'ait appelée, et cela de la manière la plus offensante. » Ces mots, prononcés un peu plus haut qu'à l'ordinaire, et une manière d'attaque si directe, ne pouvaient passer inaperçus pour la Billikin. Sa figure blême rougit vivement et les symptômes menaçants d'un nouveau spasme commencèrent d'apparaître. Cependant, le sang-froid des gens doués d'une certaine combativité est généralement remarquable, et l'on sait si la logeuse de Southampton Street, Bloomsbury, avait reçu ce don de la nature. « Oui, on se mêle ici des domestiques, mademoiselle, » continua-t-elle après une pause employée à rassembler ses forces. « On leur a fait des remarques à propos de l'eau répandue par le robinet devant l'une de vos portes. » « Mademoiselle, certaines gens, qui ne possèdent pas grand-chose, si l'on met de côté ce qui leur vient des autres, regardent volontiers comme leur appartenant la maison des autres. » « Non pas qu'on ne jette pas quelquefois de l'eau, mademoiselle, car elle jaillit un peu fort, et le robinet n'est pas parfaitement juste. Je ne vous tromperai pas là-dessus, mademoiselle, mais que voulez-vous y faire? Est-ce que les gens dont nous parlons s'imaginent avoir loué toute la maison et que personne autre qu'eux ne doit prendre d'eau ? « Et à qui appartiennent les domestiques, mademoiselle ? Ils ont été gagés sur d'excellents certificats et ils sont payés si exactement qu'ils n'ont jamais à élever aucun mot de réclamation. Non, ils n'oseraient pas réclamer. Eh bien, qui leur donne des ordres ? Je vous le demande, mademoiselle. Sans compter que ceux qui se plaignent sont les premiers à tirer et à jeter de l'eau, ce qui fait un vrai marécage et augmente les impôts par la dépense qu'ils en font. » Ah, ceux qui ne sont pas à même d'en bien juger pourraient dire que ces gens-là doivent être fameusement sales pour avoir tant besoin d'être lavés et frottés. » Les yeux de Mademoiselle Twinkleton étincelèrent. Elle enfilait encore son aiguille et comme son visage était tourné vers le jour, on voyait très bien sa physionomie, mais elle répondit d'une voix suave, sans aucun trouble apparent, de ce ton bien connu dans la maison des nonnes. « Si jamais vous en avez l'occasion, Rosa, ma chère, soyez assez bonne pour dire à cette personne extraordinaire que vous avez connu des gens qui se servaient de trop peu d'eau. On pouvait même se demander si elle se lavait jamais. Ce sont ces gens-là qui ont horreur de voir les autres se tenir propres. Ils sont en proie à une sorte d'hydrophobie et cela se voit bien. » Les yeux de la Billikin étincelèrent à leur tour, mais d'un feu plus sombre. Évidemment, il fallait combattre avec de gros mots, mais elle ne trouva pas tout de suite l'occasion favorable pour rendre le coup qu'elle venait de recevoir. Mademoiselle Twinkleton, au contraire, brandissant sa lame tout fraîchement ensanglantée et le cœur rempli d'une douce satisfaction, porta une nouvelle botte. « Et pendant que vous parlez à cette personne, Rosa, ma chère, reprit-elle, vous ferez bien de lui faire entendre que l'habitude d'entrer dans les appartements sans frapper n'est jamais reçue dans la bonne société, et que, si elle la conserve pendant les quelques jours que nous devons encore passer ici, nous supposerons qu'on entrerait aussi bien dans nos chambres quand nous sommes absentes et dans une intention que je ne qualifierai pas, en sorte que nous serons forcés de les tenir toujours fermées à clé. » Bon, dit la Billikin, j'ai toujours observé, mademoiselle, que les gens qui n'aiment pas avoir entré les gens dans leur chambre sans avoir frappé à l'avance ont l'habitude d'y faire des choses qu'il est bon de ne pas regarder de trop près. Non pas que je soupçonne quelqu'un que nous ne nommerons pas, mademoiselle, de recevoir un gentleman dans sa chambre. Non, mademoiselle, je ne vous déguiserai pas que cette personne a quelque peu trop d'âge et trop peu aussi de ce qu'on appelle bonne mine. On doit donc soupçonner autre chose. Vous direz à la maîtresse de la maison, Rosa, ma chérie, répondit mademoiselle Twinkleton, aussi calme que jamais, que nous ne faisons pas seulement d'objection contre son habitude d'entrer sans frapper, bien que cela soit déjà suffisamment grave, mais que, pour elle, aussi bien que pour ses domestiques, nous serons obligés d'en faire une condition expresse, et cela pour des raisons personnelles. Puis vous pourrez encore, Rosa, demander formellement à cette personne de vouloir bien quitter la chambre immédiatement et de n'y pas revenir, mais d'envoyer ses commissions par quelqu'un dont le sang ne soit pas si pauvre et dont les manières soient moins désagréables. C'était le coup de grâce. Madame Billikin le sentit, quoiqu'elle cachât ses sensations, aussi bien que les anciens chevaliers, au moment où l'acier d'une dague venant de trouver le défaut de leur cuirasse, ils s'abreuvaient du sang de leur cœur et comptaient les minutes avant de tomber la face contre terre. Elle serra son châle autour d'elle comme si cette armure pouvait la défendre contre les coups de langue de son ennemi dont le mépris la déchirait. Elle était vraiment aussi pâle que si ses veines n'eussent pas contenu du tout de sang, au lieu de renfermer ce pauvre sang si peu nourri dont on venait de proclamer la bassesse. Bref, elle était vaincue. Aussi quitta-t-elle le champ de bataille en lançant seulement ce trait de part. « Je comprends l'insinuation, mademoiselle, et j'agirai en conséquence, car vous m'avez insultée. Bah, est-il jamais possible de faire une bourse de soie avec des oreilles de porc ? Vous pourrez dire à M. Grudges, mademoiselle, que la chambre est attendue le plus tôt que possible quand elle sera libre, ce qui, grâce à Dieu, sera bientôt, et que je ne renouvellerai pas le bail à aucun prix. Ah, vous aurez beau m'offrir des guinées en place de shilling. Quant à vos ordres pour le dîner, si vous ne voulez pas mourir de faim, mademoiselle, vous me les apporterez dans ma chambre, où je pourrai les recevoir d'une façon décente. » Mademoiselle Twinkleton, victorieuse sans trop se rendre compte des causes de sa victoire, garda le silence après le départ de l'ennemi. Elle se sentait même plutôt battue que victorieuse en songeant à l'exemple qu'elle venait de donner à l'une de ses élèves dans cette rencontre qui avait été un déploiement de colère plutôt que d'esprit. Et Rosa ? Nous avons tous entendu parler de serpents sous les fleurs. Il n'y avait pas le moindre serpent sous ce charmant bouton de rose. Il n'y avait jamais eu en elle rien de plus dangereux ou de plus puissant que ces charmants éclats d'impatience enfantine contre celui qui la faisait frémir de dépit autrefois et qu'elle appelait aujourd'hui avec tendresse « pauvre Eddie ». Il était hors de doute que la violence de Madame Billikin l'avait effrayée malgré le peu de part qu'elle avait prise au combat. « Vous avez entendu ce que dit Madame Billikin, chère Mademoiselle Twinkleton ?» demanda-t-elle quand cette dame eut disparu, avec un épouvantable fracas en fermant la porte. « Elle ne rentrera pas ici, je suppose, et nous serons obligés de déménager. » « En êtes-vous fâchée, Rosa ? Pensez-vous que j'aurais pu en dire moins en face de tant d'impertinence et de grossièreté ? S'il en est ainsi, j'en suis désolée. Mais je ne puis faire d'excuses à cette personne. Rosa, ma chère, je ne le puis. » Ainsi parla mademoiselle Twinkleton. Elle avait peut-être quelques remords en pensant tout bas que le résultat de cette affaire serait peut-être nuisible aux intérêts de Rosa, puisqu'on n'allait plus avoir de gîte à Londres. Mais Bouton de Rose, franchissant les limites de leurs relations ordinaires d'élève à maîtresse, répondit en jetant ses bras autour du cou de la soigneuse vieille fille et l'embrassant en disant « Faire des excuses, mademoiselle Twinkleton, que voulez-vous dire? À quoi pensez-vous? Vous n'avez fait que ce que vous étiez en droit de faire et que cette mégère méritait depuis longtemps. Mais c'était bien drôle, n'est-ce pas ?» Et la charmante fille se mit à rire, d'un air trop joyeux pour cette robe noire dont elle était vêtue et qui la couvrait de deuil sans pouvoir la rendre mélancolique. Cet éclat de rire se mêla au bruit argentin de la sonnette. Un moment après, Helena Landless entrait dans la chambre. Aussitôt, on vit disparaître mademoiselle Twinkleton et les deux jeunes filles, si différentes en toutes choses, se trouvèrent encore une fois assises sur le sofa, près de la fenêtre, un bras passé autour de la taille l'une de l'autre et s'embrassant. Elles s'étaient embrassées ainsi dans la maison des nonnes quelques mois avant, lorsque Rosa, pour la première fois, s'était mise sous la protection de sa compagne, plus énergique et plus expérimentée qu'elle. Lorsqu'Helena, de son côté, semblait plier sous une autre volonté qui lui enseignait des choses encore inconnues pour elle dans les grâces de la vie et de la littérature. Elles étaient assises auprès l'une de l'autre de la même façon, sans avoir rien perdu de leur tendresse mutuelle, et cependant un si grand changement s'était opéré en chacune d'elles que les yeux de l'autre ne pouvaient manquer de l'apercevoir. Quel était donc ce changement ? Il leur eût été difficile d'exprimer ce qu'elles voyaient, ou plutôt ce qu'elles sentaient, et il est peut-être aussi difficile à l'écrivain de faire comprendre ici ce qu'il veut dire. Le visage doré d'Helena et ses yeux sombres semblaient plus brillants et plus animés depuis son premier voyage à Cloisterham. Ses yeux n'étaient pas doux, comme il arrive souvent après le premier éveil de l'amour. Pour dire toute la vérité, ils étaient moins aimables que dans ses jours passés. Il était presque certain qu'Helena n'eût pas éveillé alors autant d'amour que 6 mois auparavant. Son visage respirait plus de puissance, plus de volonté, moins de cette gravité altière devant laquelle M. Crisparkle s'était incliné avec un si profond respect pendant cette soirée orageuse sur le bord de la rivière de Cloisterham. On croyait la retrouver telle qu'elle devait être dans ce temps dont parlait Neville, alors qu'une haine sans contrepoids et un désir sauvage lui conseillaient de chercher un refuge dans la fuite contre les souffrances et une servitude qu'elle ne pouvait plus supporter. En un mot, elle semblait moins faite pour qu'on l'aimât et plus à craindre. Les griffes de la panthère d'Orient se montraient sous la peau veloutée de sa main charmante. Et Rosa ? Il en était d'elle autrement que d'Helena, précisément tout le contraire. Elle avait toujours été douce, à sa façon à demi enfantine, mais son cœur maintenant semblait réfléchi et avait bien plus de charme. Ce changement n'était certainement pas l'œuvre du chagrin. Ses lèvres exquises, tout en conservant leur moue mignonne, avaient pris des courbes plus fines et plus fermes. Il y avait aussi plus de sentiments et quelque chose de plus féminin dans la physionomie. Sans pouvoir expliquer ces différences, l'observateur attentif aurait aisément cru que la jeune fille avait 3 ans et non 6 mois de plus. Il aurait probablement ajouté qu'elle était bien plus attrayante et bien mieux faite pour exciter l'amour. Bouton de Rose avait appuyé sa jolie tête sur le sein d'Helena et tenait les yeux levés sur elle à la façon des anciens jours. C'est dans cette attitude qu'elle vit une chose qui la fait tressaillir de crainte et aussi de surprise. « Quoi donc, chérie ? » dit-elle en tenant son amie à distance, comme pour l'examiner plus à l'aise. « Qu'avez-vous ? Qu'est-ce qui vous rend différente de ce que vous étiez il y a quelques jours ? Vous est-il arrivé quelque chose ? Avez-vous une confidence à me faire ?»« Oui, mignonne, j'ai beaucoup de choses à vous dire, » répondit Helena après une pause d'un instant. « Mon visage montre-t-il donc mes préoccupations ? Je suis contente que vous vous en soyez aperçue. » Cela rend ma tâche plus facile. Et pourtant, j'en suis fâchée aussi, car cela prouve que je ne suis pas bonne comédienne au moment où j'aurai le plus besoin de l'être. Il est arrivé quelque chose, et une chose fâcheuse. Est-ce à vous, à Neville, ou à Monsieur Tartare ? Pourquoi les yeux d'Helena examinent-ils si attentivement sa compagne au moment où elle prononce ce dernier mot ? Y avait-il vraiment, comme le pensait Héléna, une légère rougeur sur le doux visage, une légère émotion dans cette voix d'argent? Héléna répondit un peu brusquement. « À moi ou à Neville, fort bien. Mais pourquoi M. Tartare, que vous connaissez depuis si peu de temps, excite-t-il votre anxiété? Ma chère, entendons-nous bien. » Si elle avait eu auparavant le moindre doute sur la rougeur et l'altération de la voix de Bouton de Rose, ce doute disparut aussitôt. La joue rosée devint écarlate, le jeune front devint cramoisi, et toutes ses manières redevinrent celles de la pensionnaire, surprise en flagrant délit de quelques peccadilles, dont elle avait honte, bien qu'il n'y eût aucun mal à l'avoir commise. En vérité, qu'était-elle autre chose qu'une pensionnaire? Que voulez-vous dire, chère Héléna? C'était un subterfuge, tout au moins un moyen de gagner du temps pour réfléchir. 9 fois sur 10, les enfants n'emploient-ils pas cette innocente question pour se tirer de peine? Aussi Héléna Landless la prit bien pour ce qu'elle valait. Elle leva un doigt d'un air de menace caressante. « Ce que je veux dire, chérie, reprit-elle. Oh, vous me comprenez. Regardez un peu votre figure. Ce marin est devenu dangereux pour mon enfant gâté. Il faut le faire partir pour un long voyage, un voyage de 5 ans au moins. » « Je ne vous comprends guère, chère Héléna. » Le même subterfuge que la première fois, mais avec un léger changement d'intonation dans la voix qui montrait qu'on désirait recevoir une explication, bien que la chose fût inutile. « Encore ? » fit Héléna. « Mais je veux dire simplement que vous avez trouvé votre cœur bien disposé. C'est l'avoir trouvé pour le perdre en faveur de cet étranger, voilà tout. »« Ah, Héléna, ma chérie !» Bouton de Rose, sans dire autre chose, se jeta dans les bras de son amie, cachant son charmant visage sur l'épaule d'Héléna, et ses premières paroles prouvèrent bien qu'elle était la plus enfant des enfants qui eût jamais découvert tout à coup qu'un cœur de femme battait sous son sein. « Ne vous moquez pas trop de moi, chérie, si vous pouvez, et ne me grondez pas, je vous en prie. Oh, c'est si mal, je le sais bien, et cependant, comment puis-je m'en empêcher ? Pensez donc comme je suis sotte. Il ne m'a jamais dit un mot d'amour. Je ne sais pas seulement s'il m'aime beaucoup mieux qu'un petit chat. » La belle main brune d'Héléna s'étendit et, du bout de ses doigts effilés, caressa doucement le front de son amie. Elle prononçait en même temps les paroles les plus rassurantes qui pussent tomber d'une bouche humaine. « S'il vous aime, certainement, mignonne. Ne craignez rien, il vous aime. » Tout le monde vous aime d'abord, et je pense qu'on a bien raison, mon petit oiseau chéri. Pauvre Neville, pensez seulement comme j'aurais été heureuse si vous l'aviez aimé comme vous aimez cet étranger. Pauvre Neville, oui, et pauvre Eddie. Je suis un tourment pour moi et pour les autres. Mais qu'avez-vous? Ai-je dit quelque chose qui vous ait peiné ou offensé? Héléna s'était levée brusquement, avec un geste qui semblait vouloir repousser les deux jolis bras noués autour de sa taille. Elle s'élança vers l'autre fenêtre. Elle tournait ainsi le dos à Rosa, et quand Rosa l'y suivit, elle la trouva le visage couvert de ses deux mains et pleurant avec violence. « Chère Héléna, qu'ai-je dit ou fait pour vous faire pleurer, vous qui êtes si forte? Dites-le-moi, chérie. « Ah, soyez bonne !»« Rien, Rosa, ma mignonne, rien !» réplique Héléna, faisant un violent effort pour se rendre maîtresse de ses sentiments. « Mais il faut que je vous le dise, ou je crois que mon cœur se brisera. » Elle remit son bras autour de la taille de Rosa et continua, en phrases entrecoupées, qui prouvaient la véhémence de l'émotion dans une âme d'ordinaire si bien gouvernée. « Voyez, je vous ai arraché votre secret, chérie, et je ne puis pas garder le mien. Est-ce que vous ne comprenez pas ce qui me dévore le cœur? Ce n'est pas seulement l'anxiété que j'éprouve pour mon frère, c'est une chose plus triste et bien pire. N'ayez pas peur de moi. Ne croyez pas que j'ai jamais été basse ou perfide, car vraiment, non, vraiment, cela n'est pas. Je ne vous avouerai pas la vérité, même à présent, dût-on me faire écraser sous les pieds des éléphants de mon pays, s'il n'était pas trop tard pour que ma confession pût faire du mal. » Elle s'arrêta un instant, Bouton de Rose la regardait avec une pitié mêlée d'un peu d'alarme et de surprise. Mais elle ne dit rien, seulement elle resserra un peu, en signe de sympathie, l'étreinte de son bras autour de la taille élégante d'Héléna. Celle-ci continua. « Ne savez-vous pas ce que je veux vous dire, chérie? Comment puis-je vous le confesser plus clairement? Et pourtant, je le désire et il le faut. Mon cœur est enseveli quelque part, je ne sais où, et cependant, il vit et il souffre. J'aimais Edwin Drood. Oh, Héléna, chère Héléna! Oui, ne pensez pas que je vous ai fait un tort volontaire. S'il avait vécu et qu'il n'y eût pas eu de rupture entre vous, j'aurais emporté mon secret dans la tombe. Mais je l'aimais, je crois, la première fois que je le vis. Je ne pouvais pas plus m'en défendre que je ne pouvais m'empêcher de respirer. Pauvre Eddie, oui, il vous aimait aussi, j'en suis sûre maintenant. Il ne pouvait pas plus m'aimer, moi, que je ne le pouvais moi-même. Nous n'avions qu'une affection de frère et de sœur l'un pour l'autre. Nous étions trop enfants tous les deux, sans expérience pour nous guider. Mais vous, oui, je suis sûre qu'il vous aimait, et c'est pour cela qu'il me rendit si facilement ma parole quand je la lui demandais. Le pensez-vous, ma chérie? Oh, si je pouvais vous croire, je crois que je serais presque heureuse, même en sachant que je l'ai perdu pour toujours en ce monde. Elle avait joint les mains et ses yeux noirs brillaient de cette expression passionnée à laquelle rien ne pouvait plus répondre. Puis elle se remit par un effort de volonté, comme si elle sentait qu'elle allait se laisser entraîner à une faiblesse indigne d'elle. Un moment après, elle n'était plus la même. Encore debout devant la fenêtre, le visage impassible, elle raconta, en changeant brusquement de sujet, ce qui était arrivé la veille au soir au Staple Inn. Rosa écoutait avec un intérêt qui se changea rapidement en terreur à la pensée que John Jasper était si près d'elle et qu'il venait avec des intentions si menaçantes. Était-elle bien à l'abri de tout danger sous la protection de M. Grewgious? Et son cœur murmura le dernier nom et sa bouche le répétait sans cesse en hésitant « Et... de M. Tartare ?» Le visage d'Héléna Landless était toujours sévère et calme, et il sembla à Rosa qu'elle trouverait près de son amie aide et protection si elle lui faisait défaut par ailleurs. Héléna le lui promit en répondant au dernier murmure de crainte que Rosa exprimait à son sujet et à celui de Neville. Cette promesse devait suffire pour tous ceux qui la connaissaient. Non, elle ne devait pas hésiter à lutter vie contre vie avec l'homme qui avait assassiné celui qu'elle aimait, persécuté son ami et poursuivi sans scrupule le frère qui était la moitié d'elle-même. Non, chérie, n'ayez pas peur de cet homme, quelque terrible qu'il soit, dit-elle. Il n'a jamais vu une jungle indienne, je pense. Moi, j'en ai vu malgré ma jeunesse. Il apprendra peut-être avec le temps que le chasseur n'est pas plus en sûreté que le gibier qu'il poursuit et qu'il est prêt d'atteindre quand il s'est une fois aventuré dans ces déserts.